France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Bonjour à tous et pardonnez-moi d'être vraiment triste après la mort de Jean-Loup Dabadi, l'auteur de chansons, de théâtre, de cinéma que nous admirons tous, mais aussi l'homme merveilleux, souriant, généreux, radieux qu'il était dans la vraie vie. Nous avions le projet de nous revoir bientôt, ce ne sera pas le cas, mais je vous propose de le retrouver ce matin avec tout son charme dans l'émission que nous avions enregistrée voici quelques années. Et d'abord, sans plus attendre, une de ses plus belles chansons de cinéma, la chanson d'Hélène, entonnée par Romy Schneider dans Les choses de la vie. C'est aussi l'occasion de saluer Michel Piccoli qui lui rend la réplique sur ces paroles de Jean-Loup Dabadi.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne
chanson d'Hélène en 1970 dans Les choses de la vie de Claude Sautet, un des nombreux films écrits par Jean-Loup Dabadi. Mais c'est d'abord le parolier de chansons, célèbre et moins connu, et aussi le mélomane que j'ai voulu mettre à l'honneur dans notre entretien. C'était Étonnez-moi Benoît du 24 décembre 2011.
Au paradis, mal moi, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis.
On ira tous au
Bonjour Jean-Louis Dabadi.
Bonjour Benoît.
Merci d'être venu avec cette chanson pour commencer. Bon, elle est très connue, excusez-moi, mais d'abord je l'aime beaucoup. Et puis, ça a un côté un peu en cette période pré-élection, un programme électoral, parce qu'au fond, il y a beaucoup de promesses.
C'est drôle parce que...
Est-ce qu'elles vont s'accomplir d'après vous, ces belles promesses?
Mais écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais fait lu un livre, enfin que ces auteurs, deux journalistes, m'avaient envoyé, un livre brillantissime sur... les chansons, j'étais très honoré que cette chanson soit sélectionnée, si j'ose dire, les chansons qui ont pas accompagné leur époque, mais qui, ce qui était complètement abusif pour On ira tous au paradis, qui expliquent ou qui ont provoqué des choses de l'époque ou qui sont un reflet un an avant ou un an après de l'époque. Et alors ça partait du temps des cerises jusqu'aux dernières chansons.
Voilà, c'est très net, c'est le début des années 70.
Il disait ça, ça préfigure mai 68. Parce que il est interdit, on ira tous au paradis.
Voilà, c'est ça.
Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, même les bonnes sœurs et même les butins, etc. Or, c'est exactement comme lorsqu'on était en Sorbonne et qu'on avait des profs, même jeunes, qui nous expliquaient sur un verre et demi de Baudelaire. Voilà, si on regarde ce mot-ci, comment il a une correspondance avec au milieu du deuxième vers. Donc Baudelaire, qui à ce moment-là fréquentait tel ami, a dû se dire que, etc. Et moi, je me disais, pour cher Baudelaire ou cher Verlaine, certainement, ils ont simplement cherché à battre leur âme comme on bat son cœur pour trouver une belle image, un beau vers. Je ne dis pas que rien ne soit inspiré de la vie, mais je sais pas, moi, par exemple, une de mes chansons pour Julien Clerc, qui s'appelle Ma préférence, on m'a donné un nombre d'explications absolument sidérantes. Vous venez de passer un extrait de cette chanson faite avec et pour Michel Polnareff, On ira tous au paradis, et l'une de vos consoeurs, il y a quelques mois, m'a dit, oh non, moi, ma préférée, c'est la chanson que vous lui avez écrite pour France Gall. Quand il a été quitté par France Gall, j'ai dit, attendez, vous pouvez me la refaire au ralenti, celle-là, ça n'a aucun rapport. Mais pas du tout. Michel était en exil volontaire et j'ai eu l'idée de lui écrire des paroles comme pour une chanson d'amour à une femme qui s'appellerait France. Et c'est la chanson qui s'appelait Lettre à France, mais à ma connaissance, il n'a jamais eu d'histoire avec France Gall. Donc, il n'a jamais eu l'occasion de rompre avec elle et de lui envoyer une chanson d'amour pour la faire revenir.
Donc, voilà. Ne prêtons pas trop d'intention et d'explication à chaque poème ou à chaque chanson.
Non, il faut laisser à la fois la liberté, la simplicité et la modestie. Là, la modestie du parolier. Je vais vous l'expliquer, la modestie du parolier pour On ira tous au paradis. Michel Polnareff voulait une chanson, comme il disait, chorale, comme on dit maintenant après dans des films comme certains, d'ailleurs, que j'ai écrit pour Claude Sautet ou Yvan Robert, un film choral, c'est-à-dire avec une bande de copains et avec les femmes, les enfants, tout le monde qui se mélange, etc. Bon, alors, lui, il voulait une chanson chorale, c'est-à-dire qu'il me disait, je voudrais que ce soit une chanson, c'était pas encore On ira tous au paradis, il avait juste cette belle musique qu'il m'avait confiée.
Voilà, parce qu'il faut préciser, juste petite parenthèse, avec Polnareff, par exemple, et je crois aussi avec Julien Clerc, la plupart du temps, c'est eux qui arrivent. Voilà. Qui sont arrivés avec la musique.
Exactement.
Et vous trouvez ensuite les paroles.
Je cherche, je ne trouve pas toujours, Benoît. Pour Julien, il y a deux exceptions. L'assassin assassiné, à propos de la peine de mort, bien sûr. Et puis la dernière, qui n'est pas sortie, qui va sortir dans quelques jours, qui s'appelle Le temps d'aimer. Là, j'ai écrit les paroles d'abord et la musique après a été composée par Julien. En ce qui concerne Michel, donc pour On ira tous au paradis, non, c'est pour expliquer que nous faisons un métier humble. Enfin, du moins, il faut l'humilité pour le faire et là-dessus personne ne peut me prendre, je crois. C'est que il m'avait dit, je voudrais une chanson que tous les gens puissent chanter ensemble sur les grands boulevards comme ça, etc. Donc j'ai cherché, puis un jour je trouve ce thème, On ira tous au paradis, sur ses premières musiques. Et puis le plus dur à trouver pour mettre les paroles, c'est que sa musique faisait donc jusque là vous pouvez trouver, puis alors ça, c'est les deux notes qui tuent.
Et puis, pour le parolier,
là-dessus, j'ai trouvé même moi. Alors bon, ça lui a plu. Et on a tellement, en fait, continué, poursuivi notre idée de chanson chorale, que ce qui aujourd'hui paraîtrait, alors c'est pas un passé tellement lointain, mais incroyable, c'est que le jour de l'enregistrement, on a fait pas moi, mais Michel, ses musiciens, etc., ils ont fait entrer dans le studio des gens de la rue.
Ah oui, pour chanter le chœur.
Ouais.
Ah oui.
Voilà pourquoi le chœur est discutable du point de vue...
Puisqu'on est sur France Musique, alors question musicale, ça vous est arrivé souvent, Jean-Louis Dabadi, de suivre la production, l'enregistrement des chansons que vous aviez écrites?
La production, enfin, non, l'enregistrement, oui.
Oui.
L'enregistrement, oui, parce
que... je veux dire la production au sens artistique, tout le travail, d'arrangement, d'orchestration, de vous intéresser à tout ça, d'aller au studio.
Oui, parce que pas à chaque fois, mais souvent, parce que c'est exactement comme lorsque un autre Benoît me dit, est-ce que vous allez au montage des films dont vous avez écrit le scénario? Oui. La réponse est simple, oui, parce que c'est là que s'achève le scénario. Uh-huh. Au montage, on dit, on coupe ici, on coupe deux secondes, on dit là, non, c'est un peu à ventre mou, il faudrait trouver quelque chose, on met de la musique, on met pas de musique. Alors, les bons metteurs en scène vous invitent à, sans qu'on soit toujours perché sur leur épaule, à venir regarder et commenter une bobine, comme on disait, enfin 10 minutes, 20 minutes de film. Les chansons, c'est pareil. Par exemple, Julien Clerc, quand il enregistrait notre chanson « Femme, je vous aime », c'était à Soho, à Londres, dans un studio qui s'appelait, je crois, le Trident, je sais plus comment il s'appelait. Et donc, je fais le voyage, et j'ai bien fait, parce qu'il avait, c'était la mode à ce moment-là, ça l'est encore souvent maintenant, un producteur, un génie qui avait travaillé avec, je me rappelle plus, les Pink Floyds, les Moody Blues, je sais plus quel groupe prestigieux américain. Et il se trouvait que ce garçon-là était très très fort du point de vue de la musique. Il disait là, il faudrait faire entrer un petit peu de guitare, là un peu de cymbale, etc. Ouais. Mais il ne parlait pas un mot de français.
Ah oui, c'est un peu gênant pour eux.
Ce qui fait que la première fois que j'étais dans un studio comme ici, avec Julien qui était avec son piano et qui enregistrait la voix, au-dessus il y avait la cabine du... Alors je me trouve dans la cabine avec le producteur, puis deux, trois personnes de l'entourage de Julien Clerc, comme Bertrand de Labbé, notre ami producteur, éditeur, conseiller, etc. Et donc ce producer, comme il s'intitulait, nous passe une première version de la chanson mixée. Et là, moi j'ai horreur de dire ça, hein, parce que ça fait vraiment auteur, oui, narcisse, etc. C'est pas comme ça. Je lui dis, écoutez, ce que je viens d'entendre, même moi qui ai écrit les paroles, je les comprends pas.
Ouais.
Parce qu'il avait dans son mix tellement
absorbé le texte.
Oui, le texte avait été épongé par les orchestrations qui elles-mêmes étaient très très belles. Mais je vous assure, femme, je vous aime, je n'en connais pas de facile, j'en connais que de fragile. On ne l'entendait pas, on ne le comprenait pas. C'était écrabouillé par les orchestrations et par la musique. Donc ce jour-là, je n'y vais pas chaque fois, ce jour-là, je me suis dit, bah, je suis quand même content d'avoir fait le voyage.
Une dernière petite question avant de remonter un peu dans le temps, Jean-Louis Dabadi. On ira tous au paradis, chanson, et puis des années plus tard, nous irons tous au paradis. Un film, vous avez fait le scénario, c'est quoi le lien direct?
Le lien, c'est l'auteur. C'est comme un jour j'ai écrit une chanson pour Serge Reggiani qui s'appelle La chanson de Paul.
Ouais.
On parle jamais d'un personnage qui s'appelle Paul dans la chanson, mais c'était son personnage de Vincent François, Paul
et les autres. Oui, bien sûr, oui.
Et j'avais dit à Claude Sautet, si ça ne te dérange pas, il m'a dit, mais non, mais pas du tout. Je vais écrire une chanson pour Serge, qui soit la chanson du personnage. Cet écrivain alcoolique qui arrive au bout de ses bières, mais pas au bout de ses phrases.
Mais là, c'est le contraire, c'est la chanson d'abord et le film après.
Il s'est trouvé que quand on écrivait la suite d'un éléphant, ça trompe énormément. Quand je l'écrivais, on cherchait des titres, on faisait des, comme on dit en mauvais français, des castings de titres, comme on fait.
Ah oui.
Moi, je fais toujours ça. Je fais avec mon metteur en scène. Pendant que j'écris sur un grand papier à dessin avec des feutres de toutes les couleurs. J'écris des idées de titres, des titres certains qui sont pas bons du tout, puis d'autres qui se rapprochent. C'est comme ça qu'on avait trouvé un éléphant, ça trompe énormément. Et là, on cherchait pour la suite. Mmh. Et à un moment, je dis à Yves, c'est dommage qu'il y ait déjà une chanson qui s'appelle « On ira tous au paradis », parce que ça serait pas mal
d'écrire... Ça aurait été bien pour le film.
Pour le film, de dire « Nous irons tous au paradis ». Alors, il me dit « Oh là là, c'est formidable, demande à Michel Polnareff s'il est d'accord, en fait ». J'avais pas lui demander parce que c'est moi l'auteur.
C'était votre texte.
Enfin, par courtoisie, je lui ai demandé. Ouais. Michel a répondu tout de suite. Oui, d'accord. Mais il y avait une correspondance à propos de Baudelaire entre le On ira tous au paradis pour Michel, qui est donc tout ce peuple qui va vers le paradis, même les mais ceux qui sont maudits et ceux qui sont bénis. Et puis, Nous irons tous au paradis, qui est un film, là aussi, sur la fraternité, les bandes, les groupes, les chorales, et puis cet optimisme un petit peu enfantin.
Et maintenant, je vous l'ai dit, petit retour en arrière au début des années 50.
À Mexico, c'était un drôle de zigoto. Ça n'est pas qu'il était costaud,
mais ça n'est pas qu'il était très bon.
Il portait un grand sombrero, il avait un pistoletto avec des sabres et des couteaux. Que ça donnait froid dans le dos. C'était le plus grand général du Mexique, José de las Castañetas. C'était vraiment,
c'était
un est-il fantastique.
C'était un as,
un très grand as.
Sa moustache était comme ça,
ses épaulettes comme ça.
Son sombrero grand comme ça, mais lui n'était grand comme ça.
Mais c'était le plus grand général du Mexique, José de las Castañetas.
Mais il faut faire bien attention avec ces révolutions. Qui est pour un oui, qui est pour un non, on prend une balle dans le citron.
Sa mort était pour la nation une terrible perdition, et c'était pour cette raison qu'il sortait pas de sa maison.
C'était le plus grand général du Mexique, José de las Castañetas.
C'était vraiment,
c'était
un est-il fantastique.
C'était un as,
c'était un as, un très grand as.
Il avait des médailles,
tout ça,
un masque à gaz,
comme ça,
dos arquebus,
non pas dos, tres arquebus,
comme ça, lui tout seul qui était grand comme ça.
Non pas comme ça,
hein,
comme ça.
Mais c'était le plus grand général du Mexique, José de las Castañetas.
Pourtant on eut besoin de lui, on vint le cercer une nuit, que cette fois dans le pays, ça sentait un peu le roussi.
Mon général hardi, hardi, debout là-dedans,
qu'on lui a dit.
Mais il en fut tellement surpris
qu'il en tomba mort dans son lit.
C'était le plus grand général du Mexique,
José de las Castañetas.
On lui fit des funerailles fantastiques,
funerailles nationales,
avec des larmes comme ça,
des couronnes comme ça,
des discours longs comme ça,
pour les quêtes grands comme ça.
C'était le plus grand général du Mexique. Y'a pas que chez eux qu'il y en a comme ça. De tout temps, on en a vu des tas, des petits, des grands, des gros, des grands. Honda!
C'était en 1950, vous aviez 12 ans, Jean-Loup Dabadie. Je ne sais pas si vous écriviez déjà des chansons, parce que celle-ci, en fait, elle est de Marcel Dabadie.
Elle est signée Dabadie, mais de mon papa.
Votre père,
Marcel,
voilà, exactement.
Qui écrivait, nous vivions de cela avec maman, je suis fils unique, et mon père.
Et il était parolier de chansons, c'était son métier.
Parolier, voilà, voilà, parolier de chansons. Il en écrivait pour les frères Jacques, donc le général Castañetas, pour Tino Rossi, pour André Claveau, pour des chanteuses magnifiques avec des voix graves qui s'appelaient Lise Gauthier, qui succédait à la génération d'avant, les Damia et compagnie.
Comment est-ce que lui-même était entré dans le musical, hein?
Bah, papa avait été toujours un grand lecteur, étudiant de littérature. Ouais. Il avait sans doute commencé à écrire des poèmes, je ne m'en rappelle pas exactement. Et puis, ah oui, c'est ça, maman était secrétaire à... On disait pas Radio Monte-Carlo à ce moment-là, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'était Monte-Carlo. Et quand il venait la chercher, il avait dû connaître des gens,
des chanteurs,
qui ont dû lui dire tu pourrais pas. Il écrivait des textes qui étaient même très drôles pour Jeanne Sourza et Pauline Carton, je me rappelle.
Ah oui, la chère Pauline Carton.
Et ça a dû venir comme ça. Ouais. Comme moi, c'est venu un petit peu parce qu'il écrivait des chansons, mais au départ.
Est-ce que vous vous êtes dit un jour, je ferai comme mon père, j'écrirai des chansons?
Je me le suis jamais dit parce que moi, j'écrivais des livres et puis après ça, j'ai commencé dans le théâtre, après ça au cinéma, puis c'est un jour Serge Reggiani qui ayant vu ma première pièce qui était jouée au Théâtre de Paris, qui s'appelle toujours La Famille Écarlate, un rôle lui avait été proposé, il n'avait pas pu ou pas voulu, comme c'était un homme délicieux, il avait dû dire qu'il ne pouvait pas si jamais il n'avait pas aimé le rôle, mais il avait retenu une écriture qui l'intéressait, puis 2-3 ans après il m'avait appelé en disant vous voudriez pas écrire des chansons. C'est ainsi qu'il m'a fait faire ma première chanson qui s'appelait Le Petit Garçon.
Et votre père lui continue à écrire des chansons?
Alors papa, il a 98 ans, il vit dans la campagne du côté de Narbonne avec sa femme de maintenant et ses copains. Il continue à être ma boule de sport, il regarde tous les matchs, il lit vraiment du mieux possible. Et alors il me lit de temps en temps les chansons qu'il écrit. Il ne fait pas d'illusion, il sait très bien qu'elles ne vont pas être chantées maintenant, sauf quelquefois ça lui arrive par des chanteurs régionaux. Il commence à me les lire et naturellement je m'abstiens totalement de lui faire des compliments à 20 sur 20. Je fais exprès de lui dire, écoute, c'est bien, ça me paraît très très bien, mais peut-être que là, les deux vers d'attaque du deuxième couplet, ça tu l'as déjà fait, tu as déjà écrit comme ça, je crois que tu pourrais le reprendre, y retravailler. Oui, oui, ah ben là, tu as raison, je vais retravailler. Et évidemment, ça lui donne une énergie sentimentale.
Et c'est peut-être parce que vos parents eux-mêmes appartenaient de cette façon-là au monde artistique. On sent bien, par exemple, dans vos conversations avec Véronique Dabadie, votre femme, qui sont très, très intéressantes, que vous avez été plutôt encouragé dans votre destin d'écrivain, puis d'artiste au sens plus large, par une famille qui vous a jamais retenu ou dit il faut suivre des études
classiques. Ils ont même été extraordinaires, mon père et ma mère, et je leur ai dit quelquefois un peu inconscient, avec leur esprit très poétique l'un et l'autre, ils passionné de littérature, de tout le monde artistique. Et moi, j'étais quand même en cagne à Louis le Grand, qui était une cagne, comme aurait dit Coluche, assez balèze. Et un jour, écœuré par je ne sais quelle scène qui avait dû se passer en classe ou par je ne sais quelle mauvaise note que j'avais eue, maman était venue me chercher dans la rue de Louis le Grand, là, la rue Saint-Jacques. Je lui ai dit, maman, j'aurais tout abandonné parce que je voudrais écrire des livres. Et en plus, j'étais en avance dans mes études. J'étais à 16 ans en hippocagne, donc à 17 ans en cagne. N'importe quels autres parents auraient dit, sinon, passe ton bac d'abord, du moins, rentre à la normal sup d'abord. Et là, j'ai deux ravis de la crèche, délicieux, qui me disent, oh oui, mais écrit des livres. Mais de toute façon,
non, mais c'est mieux que ça. C'est carrément, c'est votre mère qui a tapé à la machine votre manuscrit.
Maman avait tapé à la machine mon manuscrit, et maman, qui était très très drôle, très rieuse, donc encore une fois. Et un jour, elle m'avait dit, c'était un peu les époques Sagan, vous voyez, beaucoup de jeunes écrivains voulaient imiter Sagan, mais c'était pas facile. Parce que Françoise, elle avait un vrai style, une vraie musique, et c'était une personne extraordinaire, y compris dans ses livres. Mais maman, dans son enthousiasme, m'avait dit, oh, écoute. Mon chéri, mais bien sûr, quand je vois toutes les nullités qui sortent, maintenant je vois pas pourquoi tu aurais pas ta chance. Et 20 ans, 30 ans après, je lui re-racontais ça, d'ailleurs, je crois que Véronique le raconte ou me le fait raconter dans son livre.
Est-ce que, Jean-Louis Dabadi, est-ce qu'il faut lire Les yeux secs, votre premier roman paru en 57 aux éditions du Seuil?
Non, ce n'est pas une obligation. C'était ni Les dieux du foyer, celui que j'ai publié après, toujours avant ou juste ayant 20 ans. Parce que justement, comme j'avais fait je faisais, parce que j'étais encore étudiant.
J'étais tout jeune,
des études littéraires. Oui, oui.
Un jeune écrivain prometteur, comme on voit apparaître
mais
de temps en
temps
voyez, sur la scène,
effectivement. À vrai dire, la même façon que moi je les conseille toujours à mes amis, s'ils ont des grands enfants, de ne pas les pousser à être en avance, ou même des petits-enfants, dans leurs études, parce qu'à un certain moment, vous manquez de maturité, ce qui m'arrivait, moi, quand j'étais en cagne. Et il y a des sujets qu'après vous découvrez comme passionnants, l'histoire, la politique, fatigue, etc., mais qui vous barbe, qui vous ennuie à ce moment-là. Et à ce moment-là, on reste, comme nous disons entre coureurs du Tour de France, dans l'école, on reste en équilibre sur les pédales. Alors, en fait, ces deux premiers romans que Le Seuil a bien voulu publier, c'était plus les romans d'un jeune homme de lettres criblé de lecture et nourri de lecture profonde. Vous avez en face oui. de vous un des rares Français vivants qui peut dire qu'il a lu la nouvelle Héloïse de la première à la dernière. C'est là parce que j'avais été chargé de faire un exposé justement en Cagne à Louis le Grand là-dessus. Et alors, j'avais donc, moi je ne les relis jamais, j'ai quelques fois en rangeant la bibliothèque, vous ouvrez le livre comme ça, ce sont des livres qui sont trop pleins de, ils sont trop maniérés, trop pleins d'affetterie, oui. de virgules, d'adjectifs, et c'est très très long d'être simple, c'est très compliqué d'être simple, c'est très long d'être court, comme on dit dans le journalisme, et en fait tout ce que j'ai essayé de faire et je n'ai pas fini ce long effort, c'est toujours simplifier.
Ce qui est quand même étrange pour vous qui êtes si proche de la littérature, c'est que le désir d'écrire, disons, des romans ne vous est pas saisi de façon plus forte depuis.
Je vais vous dire les choses très très simplement. Comme mes parents, alors je suis parti pour le service militaire, mon sursis a été cassé comme pour beaucoup de jeunes Français. Il fallait que je gagne ma vie. Parce que mes parents ne pouvaient pas me laisser vieillir comme un vieil étudiant qui écrit des livres en attendant de savoir s'ils auraient trois lignes de Georges Charansol dans les nouvelles littéraires. C'était l'époque déjà où les éditeurs vous disaient, parce que mon père, c'est mon père qui avait signé mon contrat parce que j'étais pas majeur. Alors lui, très poliment, était allé au Seuil en disant, écoutez, on parle pas du tout du livre de Jean-Loup, on les voit même pas aux vitrines des librairies, etc. Et j'ai entendu dire cette chose, mais tellement, tellement déchirante pour un papa de jeune écrivain. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les libraires n'ont pas assez de place. Ils sortent même pas les livres d'un jeune écrivain des cartons, parce que de la réserve. Alors, si un jour, il a, comme Philippe Solaire, la dernière page des lettres françaises signée par Aragon, ou le bloc-notes de Mauriac, etc. Alors, comme je dis maintenant, pour avoir ça, comment on s'organise?
C'est pour ça que vous êtes allé à tel quel.
Alors, donc je suis devenu journaliste pour apprendre un métier, pour gagner ma vie. Et puis après, j'ai quitté le journalisme pour écrire, mais cette fois pour le spectacle.
Alors, on va y revenir, mais on va parler, après votre père, d'un autre grand ancêtre, si j'ose dire, avec qui vous avez eu une très belle rencontre.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais, je sais. Je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Et heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
Une chanson que j'adore depuis longtemps, et j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça que vous aviez écrit les paroles pour Jean Gabin.
Ben oui.
Et puis j'ai découvert ensuite dans vos entretiens avec Véronique Dabadie l'histoire très, très amusante de cette chanson, parce que c'est donc un éditeur, Denis Bourgeois, qui avait trouvé cette chanson irlandaise.
Au Midem, ou je ne sais pas si ça s'appelait déjà le Midem. Enfin,
qui avait acheté les droits et qui voulait faire chanter quelque chose par Jean Gabin dessus.
Voilà, voilà.
Et puis
Au début, Gabin lui avait répondu gentiment, bah, écoutez, moi, j'ai chanté il y a très longtemps.
Avec Mr. Inguet.
Donc, je veux pas m'y remettre maintenant, à l'époque des Pink Floyd, c'est de... Et bon, alors, et au bluff, cet éditeur, Denis Bourgeois, lui dit, oh, c'est très très embêtant parce que Jean-Louis Dabadie vous a écrit des paroles dessus. Alors que j'étais même pas au courant de rien, ni de l'achat de la chanson, ni de cette démarche. Et alors, il a fait cette réponse très gentille. On se connaissait pas, je le connaissais pas du tout. J'ai rencontré l'enregistrement pour la première fois de ma vie. Et hélas, je n'ai dans ma vie que 3 minutes de la carrière de l'immense Jean Gabin. C'est les 3 minutes de cette chanson. Et il dit, il avait entendu parler un peu de mon travail, de mon écriture, peut-être déjà par les films. Et il dit, oh, bah alors, si c'est le môme d'Abadi, je veux bien lire. Il avait pas dit, je veux bien la chanter, je veux bien lire.
La lire.
Alors, Denis Bourgeois me dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je lui dis, quand même, vous êtes culotté. Parce que, jamais. Il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça, je m'appelle. J'étais en voyage dans un pays étranger. Et, j'ai dit, envoyez-moi la cassette. Et là-dessus, je suis parti sur, alors j'ai écrit une version de cette chanson qu'un jour je suis allé proposer à Jean Gabin.
Qui vous a reçu sur le palier en costume et charentaise.
Il était magnifique. il était avec un beau costume de prince de Galles feuille morte. sa cravate et son épingle à cravate de propriétaire de chevaux. comme il dit encore à l'époque, maintenant les courtines, j'y vais encore, mais enfin c'est plus, mais il avait quand même il était propriétaire. Et puis, si vous faisiez un plan de cinéma alors il avait, comme il disait, sa bâche, sa casquette, sa bâche, la cravate, l'épingle, très jolie, la perle, le costume, et si la caméra descend jusqu'en bas, il avait des charentaises. Alors il m'avait dit, oh, je vous demande pardon, je vous reçois en charentaise, parce que j'ai mal au nougat. Je me rappellerai
j'ai
toujours
mal
ça.
Au nougat.
Voilà. Alors il lit la, et j'avais écrit cette chanson, la première version que je croyais, que j'espérais définitive, c'était cet homme d'un certain âge, mais qui s'adressait à un petit garçon, comme on pouvait imaginer un petit fils, un truc comme ça, ou un ado.
Première version.
Version, voilà. Où il disait des choses comme quand j'étais môme comme toi, ou comme trois pommes, toi, je disais je sais, puis tu verras quand on n'a pas mangé tout son pain, et il lui parlait comme ça, tu
ça
verras.
Ça donnait presque un petit peu une leçon de sagesse, un petit gars, oui, voilà.
On peut dire absolument ça. Et puis alors il met, je me rappelle, le disque sur un petit appareil Tepaz que lui avait prêté sa fille Florence. Alors il lit, puis il est éteint, il enlève le bras de l'appareil, puis il me dit, alors je vais vous dire un truc, Jean-Loup. C'est très bien, hein, c'est très bien, je critique pas du tout votre écriture. Et il m'explique que, il me dit, les gens, maintenant ils ont l'habitude de moi au cinéma, et il faut qu'ils me voient en plan rapproché ou en gros plan. Alors, j'ai rien contre les mômes, mais le môme, il faudrait le sortir de la chanson, il faudrait le sortir des paroles. Si vous pouvez me la réécrire, pareil, mais pour moi tout seul.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et du coup,
C'était une très bonne idée.
Les grands artistes, qu'ils soient de la chanson, du théâtre, du cinéma, d'ailleurs parler des disciplines où j'exerce ma peine, ont une espèce d'instinct animal. Ouais. C'est pour ça que moi, jamais quand un artiste, un chanteur par exemple, quand il me refuse un vers, un mot, même une chanson, jamais je n'essaie de le contrarier ou de le prendre en défaut, lui dire qu'il a tort. C'est toujours l'artiste qui a raison.
Ce qui est drôle aussi, c'est que Gabin, au moment de l'enregistrement, la première fois est malade, il peut pas chanter, et il apporte un certificat médical.
Oui, c'est incroyable. En fait, après, il nous a expliqué après qu'il avait le trac, et que du coup, c'est incroyable, le grand Gabin qui a le trac d'enregistrer une chanson avec les paroles sur le pupitre à 2h de l'après-midi, rue Washington, c'était, à Paris. Et c'est comme beaucoup d'artistes, moi j'ai plus d'une fois dans ma vie un artiste, un comédien qui, le jour de la générale, est à Faune à 5h de l'après-midi. Ouais. Il faut faire des piqûres ou je ne sais comment intervenir. Mais il était arrivé et il nous dit, oh, je peux pas, j'ai gardé mon sapin, c'est-à-dire son taxi en double fil, et il nous sort... On était juste le technicien, cet éditeur Denis Bourgeois et moi dans le petit studio là-bas à la rue Washington, et il nous dit, je vous ai apporté ça. Alors il nous sort un papier et on voit docteur je ne sais comment.
Comme un mot d'excuse.
Mais c'était un mot d'excuse. Je vous prie de bien vouloir excuser monsieur Jean Gabin qui, victime actuellement d'une trachéite... ne saurait enregistrer une chanson, etc. Ouais, comme s'il avait besoin. À d'autres moments, déjà à cette époque, au jour d'aujourd'hui, vous auriez eu la 163e assistante de l'attaché de presse, etc., qui vous aurait téléphoné ou pas téléphoné. Il vient pas, c'est tout. Lui était venu comme ça, avec ça. Et quand il est revenu 2 jours après ou 3 jours après, que Denis Bourgeois lui a dit, monsieur Gabin, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, il y a le studio à 2h. Et voilà. Alors, il avait prévenu, genre 3 jours ou 4 jours après, qu'il viendrait. Il est arrivé, et ça m'a ému aux larmes, parole su. Voilà. C'est l'ancienne école. Maintenant, ce qui est normal. Ouais. Oui. Maintenant, moi, si on me demande de chanter, même si ce sont des mots à moi ou des mots d'autres auteurs, je serais très content d'avoir, pour pas me tromper, sur le pupitre, derrière le micro, les paroles, comme tout le monde fait. Ouais. Mais lui, c'était l'ancienne école, l'honneur. Alors on lui avait mis un pupitre, il y a une seule photo qui existe, il est là avec ses lunettes, sa bâche, sa casquette, et puis le pupitre qui est vide.
Et il l'a fait à la première prise.
Il a fait 2 prises, c'est la première qui était bonne.
Voilà, la première était bonne. Et l'été d'après, il vous téléphone.
Oui.
Jean-Loup, est-ce que vous avez écouté le top 50 d'Europe 1?
Oui.
Ah non Jean, eh bien je vais vous dire un truc, asseyez-vous, je suis 3e derrière Johnny et devant les Pink Floyd. Et il ajoute, alors là, les mômes vont me prendre définitivement pour quelqu'un.
Exactement, c'est mot à mot ce qui s'est passé. Les mômes, c'est Mathias, son fils, et puis Florence, sa fille, il était tout fier, il m'avait, j'étais dans le midi en vacances, comme ça, il m'a dit, vous écoutez pas le top 50, et ben voilà, ça s'aimait vraiment, c'était tellement beau, tellement touchant.
Alors, on fait un saut dans le temps, à nouveau, de Jean Gabin à une toute jeune et talentueuse artiste d'aujourd'hui.
Sous la pluie, infidèle photo d'elle et de lui si belle. Il y avait aussi un petit chat gris bleu, on le voit un peu. Je me noie quand je parle d'elle dans les eaux du ciel. T'as pas vu mes ailes. Je pense qu'on est dimanche et elle penche et elle penche dans ma drôle d'histoire. Ça dépend des soirs. Le petit chat est mort ou alors il dort. J'ai plus de mémoire et ça va te faire rire. J'oublie de souffrir.
Émilie Loiseau, la photographie, une chanson que vous avez écrite pour cette jeune artiste.
Pour cette jeune artiste qui est extraordinaire, qui a une trentaine d'années, peut-être plutôt un peu moins.
Comment vous l'avez rencontrée?
Alors, ben, j'ai rencontré par téléphone. Elle m'a un jour, je reçois un coup de téléphone. Bonjour, c'est Émilie Loiseau. J'étais dans notre maison au bout de notre île avec Véronique. Et elle me dit, voilà, je prépare un disque. En général, je fais mes paroles moi-même. Je voudrais bien avoir une chanson avec des paroles que vous écririez. Et je savais que c'était quelqu'un d'exceptionnel parce que c'est une comédienne qui, si un jour vous avez l'occasion de la voir en concert, elle est très intéressante. Elle chante, elle danse, elle joue d'instruments, un petit peu la canadienne, puisque ça fait une partie de ses origines. Des choses dans tel patois de je ne sais quelle île, des choses en français, des choses en anglais. Elle remue, elle se démène, mais pas d'une manière excentrique. Et alors, c'est extraordinaire car, je vais pas être long parce qu'on peut pas le faire, mais ça, je sais que ça vaut la peine de le dire. Elle était au départ une pianiste de concert.
Oui, une formation
classique.
Il y a une utilisation dans ces arrangements des instruments.
Une formation
qui est très raffinée,
classique.
Oui.
Elle donnait des concerts. Sa mère, je crois, qui était à Londres, faisait venir là. Et un jour, elle m'a expliqué que, c'est dur à dire, surtout dans une émission sur France Musique, mais elle s'ennuyait dans sa vocation de classique et elle a commencé à vouloir faire des chansons.
Elle en tire un parti intéressant parce qu'on sent qu'il y a ça derrière. Voilà. Mais alors, on pourrait trouver ça quand même incroyablement gonflé parce que vous acceptez d'écrire, vous, Jean-Louis Dabadie, un texte pour cette chanteuse presque inconnue et vous le refuse.
Ah oui, elle m'a refusé mon premier texte qui n'avait aucun rapport avec la
photographie. Vous n'avez pas trouvé ça insolent?
Non, pas du tout, parce que je trouve que les artistes, les interprètes ont toujours le droit, sans avoir à s'expliquer, ce que j'appelle la double peine. Vous refusez quelque chose et après vous dire pourquoi. C'est avoir la peine de dire non. C'est toujours plus difficile de dire non que de dire oui, notamment à un auteur qu'on a sollicité. Mais en plus de ça, s'infliger à soi-même, je parle de l'interprète, d'avoir à dire oui parce que ça me plaît pas, ça me paraît pas bon, ça, etc. C'est ce que j'appelle la double peine. Donc moi, je demande jamais que les artistes s'infligent la double peine. S'ils me refusent quelque chose, je ne discute pas. C'est quelquefois très douloureux, mais que ce soit au cinéma, dans le théâtre et ou dans la chanson. Et Émilie, je lui avais écrit sur cette musique une chanson qui s'appelait la solitude, au sens de S-A-O-U-L. C'est une fille qui se recroquevillait sur elle-même un soir toute seule chez elle parce qu'elle avait été quittée. Et j'ai fait une chanson assez poétique. Et elle me disait, alors par politesse, elle me dit au téléphone, non, j'aime vraiment tellement ces paroles, mais je sais que c'est pas du tout ce que je crois. Mais pour cette musique, en revanche, je suis pas capable de vous dire ce que je crois ou ce que je veux. Alors je dis, bah écoutez, prenez votre temps ou si vous voulez reprenez votre musique. Ça me fait très très plaisir déjà qu'on se connaisse, même par téléphone. Elle m'a dit non. Si vous avez un mail, je voudrais vous écrire. Et nous avons reçu à la maison une lettre. Tenez-vous bien, Benoît, de 6 pages. Où elle me racontait sa vie intégralement, ses déchirements familiaux, sa vie, enfin une grande partie de sa vie. C'est comme ça que j'ai su donc qu'elle était une concertiste au départ, etc. Mais surtout, c'est toute sa vie et non pas l'état dans lequel elle était maintenant, mais toutes les marées montantes et descendantes qui avaient traversé son âme, son cœur, son corps. C'est tout. Enfin, je veux dire, c'est tout. C'était immense et beaucoup trop pour quelques paroles de musique. Et elle me dit, je voulais pas qu'on se quitte comme ça. Je voulais, si un jour vous écrivez pour moi, je voulais que vous en sachiez un petit peu plus. Et à la suite de ça, deux jours après, j'ai écrit la photographie.
Voilà. Très concrètement, vous avez dit, la plupart du temps, vous écrivez d'après la musique. Ça veut dire que le chanteur vous donne quoi, un enregistrement au piano de sa musique ou une partition ou, vous jouez un peu de piano
Non. Après, à part la truite de Schubert et les feuilles mortes, là, on est sur le bout du rouleau, là.
Vous réécoutez le thème 100 fois jusqu'à ce qu'il vous vienne des paroles.
Il n'y a pas de règle. Toutes les chansons, à part, comme Julien ou pour Paul Naref, c'est la musique d'abord. En revanche, toutes les chansons que j'ai écrites pour Serge Reggiani, un peu plus d'une trentaine, ça a toujours été les paroles d'abord.
Voilà, alors Serge Reggiani, ça tombe très bien que vous nous parliez de lui, parce que d'abord, il faut rappeler qu'il a joué, vous l'avez dit tout à l'heure, un rôle déterminant dans votre carrière.
Ah oui.
Et puis c'est quelqu'un que vous avez suivi jusqu'au bout.
Que j'ai adoré. Ouais. Et c'est lui qui m'a fait faire ma première chanson, qui était le petit garçon, mon enfant, mon amour, etc. Bon. Et je crois que je lui ai écrit sa dernière chanson, qui est une chanson parlée d'ailleurs. C'est la seule fois que j'ai écrit une chanson parlée, à part maintenant je sais pour Jean Gabin.
Qui est très belle, très déchirante. On va l'écouter.
Elle s'appelle Le Temps qui reste et c'est il la chantait dans ses derniers concerts en France et au Palais des Congrès à Paris. Et il m'avait dit, pardon, j'espère que vous prendrez pas ça pour de la fatuité de ma part, c'est parce que c'est un souvenir émouvant pour moi. C'est une des dernières fois où j'avais eu au téléphone. Il m'avait dit, les gens entrent dans ma loge comme je la chante à la fin, très souvent en pleurant, et il me dit, j'étais obligé de faire une chose pour les dernières représentations qu'on ne fait pas, qui se fait jamais, c'est de la bisser, car les gens me la réclamaient. Enfin, ça, c'est pas de moi que je parle quand je dis ça, c'est que je parle de cet interprète incroyable, inouï, c'est le cas de le dire en bon français.
Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures? Combien? Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps encore? Combien? Je l'aime tant le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler. Et voir et croire et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant, le temps qui reste. Je ne sais plus où je suis né, ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps que mon pays, c'est la vie. Je sais aussi que mon père disait, le temps c'est comme ton pain, garde-en pour demain. J'ai encore du pain, encore du temps, mais combien? Je veux jouer encore, je veux rire de montagnes de rire, je veux pleurer de torrents de larmes. Je veux boire du bateau entier de vin de Bordeaux et d'Italie. Et danser, griller, voler, nager dans tous les océans. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Je veux chanter, je veux parler jusqu'à la fin de ma voix. Je l'aime tant le temps qui reste. Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je veux des histoires, des voyages. J'ai tant de gens à voir, tant d'images. Des enfants, des femmes, des grands hommes, des petits hommes, des marrons, des tristes, des très intelligents et des cons. C'est drôle, les cons, ça repose. C'est comme le feuillage au milieu des roses. Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je m'en fous, mon amour. Quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. D'accord ?
Très belle chanson, dernière chanson donc de Serge Reggiani, écrite par vous, comme beaucoup d'autres, Jean-Louis Dabadi. Et je me demandais d'ailleurs, en écoutant cette chanson-là, ou Paul Naref, ou Julien Clerc, ou d'autres, quand vous écrivez une chanson, vous parlez de vous, ou d'une certaine façon, vous vous mettez dans la peau du chanteur pour qui vous écrivez?
Oui, c'est une très, très jolie question, Benoît. En fait, c'est comme pour le cinéma ou pour le théâtre, enfin surtout pour le cinéma, si vous connaissez vos acteurs à l'avance, c'est vrai qu'on essaie... De se mettre, sinon dans la vie, du moins dans l'âme, dans le corps du chanteur. Il y a certaines, même du point de vue des sons, il y a certains mots, certaines syllabes qui vont à certains, qui ne vont pas à d'autres. J'ai écrit peu, mais certaines chansons pour Michel Sardou, comme chanteur de jazz, par exemple, j'aurais pas pu lui écrire ma préférence.
Voilà,
ce ne sont pas des nuances pour Michel.
En même temps, c'est toujours un peu vous aussi.
Alors, en ce qui concerne le côté autobiographique, je répondrai que j'ai à certains moments, quelquefois je les ai repérés, et puis très souvent pas, des émotions, également dans l'humour, des choses qui me font mourir de rire, qui me font de l'effet que après, quelquefois longtemps après, et pas les mêmes émotions. Par exemple, je peux écrire une chanson d'amour et à certains moments me sentir dans un, même si je trouve pas mes mots tout de suite, dans un véritable état d'émotion. Et puis, il m'est arrivé de découvrir que c'est parce que, sans le vouloir, subconsciemment, j'ai repensé à un épisode de la vie de mes enfants, ou de mes parents, ou de mes amis, et que c'est exactement, je pense, comme lorsque les gens qui sont très forts en gastronomie retrouvent un goût dont ils disent, je sais pas d'où ça me vient, mais c'est un goût, classiquement, il y a le goût de l'enfance, etc., mais, ou d'un pays étranger, c'est ça. Je pense ne jamais avoir été carrément autobiographique. Mais néanmoins, si vous parlez de l'amour d'une certaine façon, si vous parlez des paysages d'une certaine façon, si vous parlez des visages ou des voix, c'est bien parce que ils ou elles ont habité ou habitent votre vie.
Si vous dites femme, je vous aime, oui, ça vous concerne un peu quand même aussi.
Je n'en connais pas de facile, je n'en connais pas de fragile, et que je serais incapable de parler des femmes autrement que ça. C'est une chanson d'ailleurs, c'est pour ça que Julien avait hésité à la chanter au début, parce qu'il avait peur que ça soit une chanson qui témoigne d'un donjuanisme de bazar, qui n'est ni son genre ni le mien. Et en fait, c'est une chanson sur la timidité, la réserve, l'amour et le désir immense que les femmes peuvent nous inspirer quand ils chantent à la fin je vous désire et même pire aux femmes, mais en même temps toutes les femmes, les jolies, les moins jolies, celles qui sont plus âgées ou celles qui sont plus petites. C'est pour ça que dans le milieu de la chanson, ils chantent « Vous êtes ma vie, je vous ressemble. Vous êtes ma mère, je vous ressemble. Et tout ensemble, mon enfant. » Parce que et Julien et moi, on avait, elles sont parties, nos mères et qu'on a des filles.
Voilà, exactement. vous êtes en ce moment en train de finir boucler un projet de théâtre.
Oui, c'est une pièce qui s'appelle « Villa Catherine », que j'ai écrite pour certains, que j'ai écrit pour certains interprètes.
Ah, vous pouvez pas encore tout dire parce que
c'est
en train de...
imaginons, suite à notre conversation de tout à l'heure, imaginons qu'il me refuse la partition. D'une part, ce sera pas vexant, mais décevant pour moi. Et puis, ce sera plus difficile si un autre acteur à qui je propose, nous proposons ma pièce, écoute votre émission, en disant, bon, d'accord, c'était pas écrit pour moi.
Un mot quand même juste du genre et de l'esprit de la pièce.
C'est une histoire d'amour un peu particulière, une grande histoire d'amitié aussi entre deux hommes. Et
une comédie dramatique, comme on dit au cinéma.
Oui, enfin, moi, je me dis une pièce, quoi. Voilà. Une pièce. Enfin, autrement, on parle dans tragicomédie, comédie dramatique. J'ai entendu même dans un film sur lequel je travaillais il y a 2 ou 3 ans, il y avait un comédien qui disait, on dira que c'est une comédie sociétale.
Oh, oui, non. Ça, c'est pire que
oh non, dérange pas des mots comme ça. Moi, déjà, je sais que même si c'est moi qui l'écris, j'y vais pas. Je vais pas le voir. En tout cas, ce que je peux dire, parce que je sais à qui je parle et où je me trouve.
Voilà.
C'est que très souvent, dans les noirs, parce que moi, j'aime pas faire d'entracte, etc., parce que maintenant, c'est complètement désuet. Les gens sortent avec leurs cigarettes, comme avant, mais avec leur portable et tout. Alors, si vous faites un entracte qui dure toujours 20-25 minutes pour récupérer les gens, leur émotion ou leur envie de rire ou de sourire, c'est très difficile. Alors, moi, j'aime mieux faire des tableaux avec des noirs de 2 minutes, quelquefois moins, quelquefois à peine plus. Et il se trouve que dans cette pièce, Villa Catherine, dans ces tableaux, et on comprend pourquoi, quand on la verra, on viendra
l'applaudir dans quelques mois.
On entend soit une voix de contralto féminine, comme la plus belle, enfin une des plus belles, Kathleen Ferrier, et soit une voix d'une haute contre, puisque là je fais le malin, mais j'ai appris, j'ai travaillé pendant des années avant d'écrire cette pièce sur ces musiques-là, qu'on doit dire une et non pas un haut-de-compte, mais enfin, personne portera plainte si on dit un haut-de-compte, donc masculin, c'est-à-dire que le plus grand contre-ténor ou haut-de-contre, quoi que ce soit pas tout à fait la même chose, mais enfin presque, c'est-à-dire ce sont des voix, donc, alors ce qui m'énerve, c'est quand on dit les voix des castrats, ça, c'est pas les voix des castrats, du tout, il y avait des castrats qui atteignaient le contralto féminin, mais de grands artistes, comme celui qui est mort il y a peu d'années, qui était le plus grand de tous dans les haut-de-compte, qui s'appelait Alfred Deller, dont la voix sur certains morceaux atteint dans les hautes notes ce que, en descendant, la voix de la contralto, comme Kathleen Ferrier. Et par exemple, il y a un morceau, je sais pas si c'est celui que vous allez passer, qui s'appelle Umbra My Fou.
Ah,
ça me fait un grand plaisir parce que je l'ai en 3 versions. Et je vous assure qu'à la maison, on n'arrivait plus à savoir si c'était Kathleen Ferrier ou Alfred Deller ou encore un chanteur américain qui... Enfin, ça me fait très plaisir.
Alors, les auditeurs ont trois minutes pour deviner si c'est Kathleen Ferrier ou Alfred Deller.
Ou un contre-ténor. Une haute contre.
C'était bien sûr Kathleen Ferrier dans cette page de Handel, dirigée par Malcolm Sargent. Et vous étiez très ému en l'écoutant, Jean-Louis Dabadi, je vous voyais.
D'abord, je suis très souvent ému en écoutant Kathleen Ferrier. Et en grande partie, elle n'est pas du tout le sujet de ma pièce, mais elle est une cariatide de mon histoire dans ma pièce Villa Catherine. Et... chaque fois, il y a pas beaucoup de littérature à propos de Kathleen Ferrier, mais chaque fois qu'on lit sa vie, ce qu'on appelle aujourd'hui sa bio, c'est tellement émouvant. Et quand elle a chanté, elle a donné un de ses derniers concerts, je crois, à Édimbourg, qu'elle savait qu'elle était atteinte du cancer. Et c'est vrai que j'ai du mal à le dire sans émotion, qu'elle a fondu en larmes dans les dernières notes. Mais c'est pas pour ça que je l'aime. Je l'aime à cause de cette voix extraordinaire. Et je vous dis, une autre fois, si vous me réinvitez, on écoutera, par exemple, si vous le voulez, plus longuement, parce que c'est très troublant, des voix de haute contre avec certains airs qui sont les mêmes. Hein, c'est aussi dans Handel, dans Pergolèse, Vivaldi et tous leurs camarades. Et c'est absolument, c'est plus que troublant, quoi. C'est très émouvant de voir qu'une vraie voix d'homme, aujourd'hui Philippe Jaroussky bien entendu, mais qu'une vraie voix d'homme peut atteindre ces timbres merveilleux, ces sonorités, ces tonalités extraordinaires de la voix de contralto. Et Kathleen Ferrier, là je m'adresse aux puristes qui sont bien plus forts que moi en matière de musique, une des choses qu'on disait d'elle, c'est que c'était une véritable voix de contralto et non pas de mezzo rabaissé. Parce que très très souvent, vous avez des chanteuses magnifiques d'ailleurs, qui pour chanter ces airs-là, sont des mezzos qui rabaissent leur voix.
Donc l'enregistrement sera en tout cas diffusé au cours des représentations, cet enregistrement?
Je sais pas, ouais, moi, ça sont les producteurs. Est-ce qu'on peut avoir ces choses-là? Mais enfin, c'est mon vœu.
À propos de droit, oui. Jean-Loup Dabadi, on peut trouver le recueil édité de vos chansons, des textes de vos plus belles chansons en tout
non,
cas
Non, Véronique, ma femme chérie, voudrait le faire, mais c'est assez compliqué parce qu'il faudrait que tous les éditeurs se mettent d'accord. Mmh. Et vous savez que presque à chaque chanson, vous avez un éditeur différent, sauf quand vous avez un chanteur qui est encore, même par exemple quelqu'un comme Julien Clerc, je crois qu'il a deux ou trois maisons d'édition. Enfin, comme c'est un ami, que ce sont des amis, ça s'arrangerait. Mais par exemple, à qui demander l'autorisation d'utiliser, de publier? Parce qu'un éditeur, par définition, il achète vos droits d'auteur, enfin, vos droits graphiques, je sais pas comment on doit dire, d'auteur, si c'est pour lui dire qu'on va les transporter chez Albin Michel ou au Seuil ou ailleurs, enfin c'est un travail
enfin,
de secrétariat.
L'éditeur de musique, il cherche souvent plutôt à toucher des droits en dehors de l'édition papier, je veux dire.
Oui, mais enfin quand même, ils sont propriétaires des paroles, entre guillemets, ils sont copropriétaires des paroles. Alors évidemment, je pense que ça se fera un jour, mais c'est un énorme travail.
Et vous n'envisagez pas de reprendre, après toutes ces chansons, tous ces films, la carrière du romancier que vous avez laissé de côté dans vos jeunes années?
Si, j'y pense. Mais j'ai tellement de choses qui m'intéressent. Oui. Là, par exemple, j'étais très heureux et ému tout l'été de travailler sur cette pièce de théâtre avec ma musique autour, tout autour. J'ai plutôt envie d'une autre pièce de théâtre. J'ai pas mal de chansons à faire et puis je vais faire un film. Mais peut-être, mais je suis pas sûr d'être non sum dignus. Je sais pas si je suis vraiment un romancier.
On a commencé avec le paradis de Polnareff. Quand on vous écoute et quand on voit le rayonnement qui émane de votre personnalité, de votre travail, on se dit que pour vous le paradis, il est certainement dans cette villa.
Ah oh, oui. L'autre jour, justement,
le paradis terrestre.
On était au bout de notre île avec Véronique et son petit chien, et c'est l'île de Ré, mais on a, depuis de génération en génération, on a une maison depuis les années 50, là-bas, et nous marchions sur marée basse, sur ce qu'on appelle le banc du bûcheron. C'est une grande, grande, grande langue de sable qui, à marée basse, s'en va sur un kilomètre et demi, etc., et où la mer qui monte et la mer qui descend au bout se rencontrent. Et il n'y avait personne que nous et les oiseaux, et quand on était au bout, on s'est dit... il faisait bleu, un beau ciel de septembre, bleuté, il ne faisait pas froid. Et on s'est dit, et on voyait les bateaux, certains à l'ancre, d'autres qui encore, comme dans un poème de Valéry, étaient sur l'horizon comme ça, comme des oiseaux blancs. Et on s'est dit, oui, si en plus on sème le paradis,
ça doit
peut-être
être ça.
On peut faire un court passage... dans ces endroits-là.
On se reverra, Jean-Loup Dabadi, parce qu'il y a tellement, tellement de choses à évoquer ensemble. On va se quitter avec Julien Clerc, dont vous avez dit simplement un dernier mot dans votre livre, encore avec Véronique Dabadi, que vous considériez comme un grand compositeur.
Oui, grand compositeur. Ouais. Je nous mets au défi, évidemment, les défis, comme les paris, on les perd toujours. Mais dans les, je ne sais pas combien de chansons il a écrites, Julien, de point de vue de la musique, vous ne trouvez pas une mélodie qui soit moyenne et dans une inspiration très très différente de nos chansons, ma préférence, Femme je vous aime, ou quand vous entendrez Le temps d'aimer à partir du mois de novembre, décembre, jusqu'à et en passant par les chansons qu'il écrivait avec Étienne Rodagil, La petite sorcière malade, ou en passant par Mélissa, ta 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 ta, c'est très très différent, c'est très inspiré. Chaque fois qu'une chanson d'amour, il trouve une mélodie extraordinaire. Et je pense qu'avec Charles Trenet, pour parler des auteurs de chansons, c'est le plus grand compositeur français,
de la chanson française
moderne, oui oui, de chansons. Un grand musicien.
Merci Jean-Loup Dabadie,
merci
et continuez de nous enchanter.
Merci Benoît.
Bien
merci beaucoup.
Merci beaucoup. À
au
bientôt.
Revoir.
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. Ma préférence à moi. Ma préférence à moi.
Ma préférence et la voix de Julien Clerc s'achevait donc Étonnez-moi Benoît du 24 décembre 2011 que je vous proposais de réentendre aujourd'hui en hommage à Jean-Loup Dabadie qui nous a quittés cette semaine.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et pour rester dans cette couleur solaire que j'associe personnellement à Jean-Loup Dabadie, je vous propose avant de nous quitter un radieux morceau d'orchestre entre théâtre et musique, entre France et Italie. C'est le divertissement sur un chapeau de paille d'Italie de Jacques Ibert, 6 mouvements, introduction, cortège, nocturne, valse, parade et finale par l'orchestre de Philadelphie sous la direction d'Eugène Ormandy.
Thank you.
Le superbe divertissement sur un chapeau de paille d'Italie de Jacques Ibert par l'orchestre de Philadelphie sous la direction d'Eugène Ormandy. Et je vous propose pour finir une musique complètement différente, mais que j'avais envie de vous passer depuis longtemps déjà. Certains connaissent ma faiblesse pour le chanteur de charme Barry White, spécialement pour certaines chansons des années 70 où il nous offre des arrangements extraordinaires avec la complicité de son directeur artistique Gene Page. Dans ce genre, je vous propose All Because of You, un grand slow de 1975. Il y a peut-être quelques longueurs, mais une progression extraordinaire, surtout dans la seconde moitié. Enfin, je vous laisse juger, et puis sinon, vous me pardonnerez.
Thank you. just sitting here in a daze of wonder why your love comes down on me like rolling thunder. All this time I've been girl caught up in where I can't explain so many things. Are you changed?
Because of You, c'était Barry White en mode déchirant dans ce disque vinyle de 1975, très difficile à trouver, sauf dans la merveilleuse discothèque de Radio France. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre consacrée pour l'essentiel ce matin à Jean-Loup Dabadie et que je vous proposais avec le concours d'Adelino Mello et de Christine Amado. Et on se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre nos rediffusions post-confinement. Mais pour l'heure, les guitares de Barry White nous conduisent tout droit sur France Musique à celle de Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.